Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Témoins de l'Invisible, l'émission mensuelle de Radio Grand Ciel qui vous familiarise avec la problématique des ovnis, des objets volants non identifiés dont on ignore la provenance, le degré de matérialité et puis évidemment les raisons pour lesquelles ils se manifestent dans notre environnement. Pour nous éclairer, Joël Ménard, qui est ufologue depuis bientôt 50 ans, qui a dirigé la mythique revue ufologique Lumière dans la nuit pendant de nombreuses années, qui est l'auteur aussi de plusieurs ouvrages, dont je vais vous conseiller le tout dernier, Les apparitions d'OVNI, publié au Mercure Dauphinois, un livre qui est vraiment une somme sur le travail réalisé par Joël Ménard durant les 50 dernières années sur les ovnis. Et grâce à Joël Ménard, nous étudions l'histoire des ovnis et nous en étions la dernière fois arrivés à l'année 1954, une année tout à fait extraordinaire puisque au cours de septembre et octobre, il y avait des apparitions quasi quotidiennes, des choses qui se sont totalement oubliées et pourtant, cela a bien eu lieu. La dernière fois, Joël, nous avions évoqué deux cas emblématiques, donc celui d'Antoine Mazot et celui de Marius De Wilde, mais ils sont loin, loin, très loin d'être les seuls.
Oui. Rappelons d'ailleurs que le plus célèbre de ces deux témoignages, celui de Marius De Wilde, n'est pas le plus intéressant des deux. Oui. Celui d'Antoine Mazot a apparemment plus de valeur, et néanmoins, c'est pas le plus connu des deux. Alors, le cas de Marius De Wilde, c'est-à-dire l'affaire de Carouble, c'est celui qui a déclenché une avalanche d'articles dans les médias de l'époque. Il est remarquable, notamment pour ça. Ça a été un déclencheur, le cas de Carouble. Ça ne veut pas dire que tout ait commencé le soir du 10 septembre 54. Il s'était produit des cas intéressants au préalable. Et notamment, il y a un cas qui s'était produit le 7 septembre, autrement dit trois jours avant, vers 7h15 du matin. J'ai choisi de parler de ce cas-là parce que, comme les affaires de Carouble et de Mourieras, je rappelle que c'est... Le nom de la commune, c'est Buget. Comme ces deux cas-là, il s'agit d'un cas avec vision de personnage. Alors, il y en avait eu d'autres avant, d'ailleurs, et si vous voulez, on pourra revenir dessus. Mais il y en avait eu notamment un trois jours plus tôt, mais qui n'avait pas eu le retentissement médiatique de l'affaire de Carouble. Peut-être parce que la personnalité du témoin de Carouble était telle que ça, pour ainsi dire, incitait les médias à en parler. Et il est bien évident que quand on a affaire à des témoins plutôt timides, plutôt réservés, les journalistes ont tendance à être moins intéressés que quand ils ont affaire à quelqu'un de tapageur et de très démonstratif. Ce qui ne veut pas dire que les témoignages les plus tapageurs soient les plus intéressants, loin de là. et en particulier le cas dont je vais vous dire deux mots, là, qui s'était produit 3 jours plus tôt, le 7 septembre, me semble largement aussi intéressant que le cas très célèbre de Carouble. Ça s'est produit dans la Somme, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Albert, sur une petite route qui va de Harponville à Comté. Il y avait là, à 7h15 du matin, deux messieurs qui roulaient en bicyclette, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Il s'agit d'un maçon, monsieur Émile Renard, 27 ans, marié et déjà père de 4 enfants, qui habitait à Acheux en Amiénois, qui était un travailleur acharné. À 27 ans, il était déjà patron maçon. Et de son employé, Yves de Gillerbose, qui avait lui 23 ans, ils allaient tous les deux effectuer un travail de maçonnerie chez le garde champêtre de Laoussois. Alors Laoussois, tout le monde ne sait pas où ça se trouve. C'est au sud de Comté, et donc au sud-ouest d'Albert. Il faut évidemment avoir la carte sous les yeux pour se rendre compte de la position des lieux. Renard et De Gillerbose avaient pas mal de kilomètres à parcourir en vélo. Normalement, ils auraient dû y aller avec la camionnette d'Émile Renard, mais la camionnette d'Émile Renard avait besoin d'entretien, et c'est la raison pour laquelle ils effectuaient le travail à vélo. C'est devenu rare de nos jours, mais en 54, les vélos, c'était un moyen de transport pour beaucoup de gens. Et alors qu'ils se trouvaient entre Harponville et Comté, sur une petite route qui est la D47, l'un des pneus de la bicyclette de Gillerbose s'est dégonflé. Donc ils se sont arrêtés. Et De Gillerbose a commencé à regonfler son pneu. Et à ce moment-là, Émile Renard a vu à environ 250 mètres d'eux, dans un champ qui avait été fauché, un champ assez ras, quelque chose qu'il a d'abord pris pour une meule de foin, et puis il s'est aperçu que la meule de foin en question avait vraiment une forme bizarre et une couleur bizarre aussi. Alors il a appelé De Gillerbose, il a dit regarde la drôle de meule là-bas, et ils se sont aperçus tous les deux que la meule en question n'était pas parfaitement immobile, mais qu'elle elle s'agitait autour de son axe vertical. Et puis, ils ont vu, devant cette pseudo-meule, la silhouette d'un personnage qui a fait quelques mouvements. Très vite, ce personnage est rentré dans l'objet qui, décidément, n'était vraiment pas une meule de foin. Et cet objet s'est élevé d'abord en oblique, puis verticalement, et a disparu à très grande vitesse. Tout ça, c'était 3 jours avant les 2 observations qui ont frappé la France par l'intermédiaire des journaux et de la radio. 3 jours plus tard, à la suite des événements de Mourieras et de Carouble.
Ouais. Ces deux cas, comment vous en avez pris connaissance ?
Oh, on en trouve la mention dans de nombreuses publications, mais il s'agit au départ de journaux de l'époque.
De journaux de l'époque.
Qui ne sont pas toujours d'une extrême précision. Là, j'ai sous les yeux un article de presse qui vient de Var-Matin. Ça peut paraître curieux que Var-Matin ait publié cette histoire, mais pourtant c'est le cas. Et il y a d'autres sources. Il faudrait que je les recherche. Mmh. Ce serait d'ailleurs facile et rapide. Il y a beaucoup de journaux de l'époque qui ont raconté ce cas-là, de même que quantité d'autres cas dont nous allons parler, mais en général, sans donner toutes les précisions qu'on aimerait.
On aimerait.
Je n'en veux qu'un exemple, c'est celui qui concerne l'orthographe du nom de De Gilabose. Alors, il est parfois écrit de Gilabose, J-I-2-L-A-B-O-Z. On trouve aussi Gilherbose, on trouve de Gilherbose, et j'ai même trouvé Guillherbose. Bon, autrement dit, comment ce jeune homme s'appelait-il ? Personnellement, je ne sais pas. Comme il était, je crois, natif, en tout cas habitant d'Acheux en Amiénois, il serait certainement possible d'avoir la réponse, mais il faudrait aller faire la recherche sur place. Mmh. Et il y a rarement toutes les bonnes volontés qui seraient nécessaires pour faire la recherche sur un cas. Quant à l'objet, il avait quelques mètres de diamètre. Il était d'une couleur gris bleuté mat. Il avait une 10aine de mètres d'envergure quand même, c'est pas mal, et environ 3 mètres de hauteur. Voilà, ça, c'était 3 jours avant les événements de la soirée du 10 septembre. Et ensuite, ça a continué et ça n'a pratiquement pas cessé pendant 2 mois. Je rappelle que tout un chacun peut s'en rendre compte en consultant les journaux de l'époque. Par exemple, dans les centres d'archives départementales, il suffit de demander les journaux de septembre et encore plus d'octobre 54, également de novembre, mais il s'agit principalement de septembre et surtout octobre. Et là, on s'aperçoit que tous les jours, il y avait des événements de ce genre qui était signalé. Alors, si vous voulez, on peut non pas énumérer tous les cas, parce qu'il y en a des centaines, mais énumérer quelques-uns d'entre eux en se concentrant, par exemple, sur les cas avec des personnages.
Je vous y invite, cher Joël.
Merci beaucoup. nous continuons notre énumération. Le 17 septembre, près de Trombeorn, dans la Moselle, dans un endroit qui s'appelle Oberdorf, nous avons Monsieur Moll, qui dit avoir vu se poser un objet d'environ 8 mètres de long, devant lequel il a distingué une silhouette vaguement humaine. L'objet n'est resté au sol qu'une quarantaine de secondes, et il a disparu en prenant l'aspect d'une sphère rouge. Un mot sur les sources, on trouve la mention de cette affaire, par exemple, parce que c'est pas la seule source, dans le Parisien libéré du 23 septembre 54, toujours. Également, le 17 septembre, entre Senon-sur-Vienne et Vouneuil-sur-Vienne, vers 22h, M. Yves David, 28 ans, cultivateur au lieu-dit Les Broulous, voit un petit être vêtu d'un scaphandre qui vient lui caresser le bras en émettant des sons incompréhensibles d'une voix qui est jugée non humaine par le témoin. Et puis ce petit personnage remonte dans un engin d'environ 3 mètres de long sur 1 mètre de haut, qui est engin qui était posé sur la route et qui décolle en lançant des lumières vertes. Je précise que ça s'est produit de nuit vers 22 heures. Le témoin est resté paralysé pendant quelques instants, puis a poursuivi son chemin. Dans la même région et vers la même date, il y a eu un cas assez semblable à Bignoux. Tout ça se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'est de Poitiers. J'ai tenté, il y a quelques années, d'obtenir des renseignements sur le cas de Bignoux, et en fait, j'ai rien obtenu, tout simplement parce que il était trop tard. Je rappelle que tout ça s'est produit en 1954, et il est bien tard aujourd'hui. Il aurait fallu que des gens approfondissent ces histoires, vérifient les informations. Certains ont tenté de le faire, mais face à l'ampleur de la tâche, ils étaient trop peu nombreux.
Je précise tout de même que lorsque vous étiez directeur de publication de la revue Lumière dans la nuit, vous avez fait toute une rétrospective sur les cas de 1954, et vous avez pu tout de même vous rencontrer certains témoins de certains cas de 54.
J'en ai rencontré quelques-uns, mais assez peu. Encore une fois, c'est parce que 54 maintenant, ah oui. C'est très très loin. Les témoins encore vivants, on peut en trouver. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns, mais peu. Il est bon dans ces cas-là de réagir assez rapidement. Si on veut aujourd'hui apprendre des choses sur la vague de 54, l'immense vague de 54, on risque d'être déçu. Il fallait s'y prendre avant, c'est bien évident.
Ouais.
Bon, je continue mon énumération. Autre cas avec vision de personnage. Le 24 septembre 54, à Dige, dans l'Yonne, Madame Geoffroy et Mademoiselle Fin voient d'assez près un disque gris sombre d'environ 6 mètres de diamètre posé au sol avec un homme de taille normale qui a quand même, à leur avis, un comportement étrange, et tout ça disparaît très vite. La référence, c'est Lyonne républicaine du 28 septembre 54. Un autre cas de la fin de septembre à Chabeuil, dans la Drôme. Vers 14h30, Madame Leboeuf se promenait dans un chemin qui se trouvait à la lisière d'un bois, plus précisément entre un bois et un champ de maïs. Elle cherchait des champignons et trouvait pas beaucoup de champignons, alors elle en profitait pour cueillir des mûres. Elle était accompagnée par sa petite chienne et la petite chienne s'est mise à aboyer furieusement. Madame Leboeuf a alors vu à quelques mètres d'elle, dans le champ de maïs, une créature de la taille d'un enfant qui lui apparut vêtue d'un scaphandre transparent. Le visage paraissait humain. Ce personnage s'est avancé vers Madame Leboeuf, qui s'est enfuie en hurlant. Elle s'est très vite retournée, parce qu'elle, quand même, elle voulait avoir une idée de ce qu'elle avait bien pu voir. Et là, elle a vu non pas le petit personnage dans son scaphandre, mais une soucoupe volante, semblable à une toupie d'enfant, mais dont la base était plate. Évidemment, cette phrase ne vaudra jamais un schéma. D'une façon générale, les renseignements qui ont été recueillis à l'époque, notamment par des journalistes, sont précieux, mais il manque de croquis. Il aurait fallu que Madame Leboeuf fasse un petit schéma, même si elle n'était pas certaine de très bien dessiner, pour qu'on ait une idée plus précise de la forme de la chose.
Je crois en tout cas que Madame Leboeuf avait été assez traumatisée, hein, si mes souvenirs sont bons, par cette expérience avec un état...
Elle a été traumatisée. D'une façon plus générale, beaucoup de témoins ont été évidemment fortement surpris par ce qu'ils ont vu. Quelques-uns ont été traumatisés à des degrés divers. Mais ce qui me semble étonnant, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui disent avoir été paniqués. Ce que beaucoup d'entre eux voyaient était tellement invraisemblable, tellement non répertorié, tellement incompatible avec ce qu'ils avaient pu apprendre à l'époque ou par leurs expériences personnelles, que j'aurais trouvé normal que les gens paniquent. Très peu ont paniqué.
Oui. Alors, les gens sortaient peut-être de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient les nerfs solides, peut-être, non?
Oui, effectivement, on peut imaginer ça. Il y avait eu tellement d'horreurs 10 ans auparavant, 10 ou 15 ans auparavant, que les gens étaient peut-être blindés contre les émotions fortes. Ouais. Je sais pas.
Je me posais la question au sujet de Chabeuil et des cas que vous avez cités. Est-ce que la gendarmerie a été saisie? Est-ce qu'il y a eu des procès-verbaux de gendarmerie et des enquêtes gendarmesques?
Oui, il y en a eu, dans beaucoup de cas. D'ailleurs, je vous dirai deux mots de ce qui s'est passé à Poncey-sur-Lignon le 4 octobre, parce que c'est un cas qui me paraît extraordinairement important dans cette vague de 54 à cause des traces matérielles qui ont été constatées au sol. La gendarmerie a effectivement enquêté sur cette affaire de Poncey-sur-Lignon et c'est pas le seul exemple. Théoriquement, les rapports de gendarmerie ont été tenus à l'abri de l'attention des curieux pendant 60 ans. C'était un délai réglementaire. 54 plus 60, ça fait 114. Autrement dit, depuis 4 ans, les archives de la gendarmerie, les rapports de gendarmerie de 1954, doivent être accessibles au public. Alors là, je note deux choses qui me semblent curieuses. Apparemment, très peu de gens se sont souciés d'obtenir ces documents. Quand je dis très peu de gens, c'est, pour être plus précis, personne. Les ufologues actuels font pas mal de bruit, mais il semble pas qu'ils se soient beaucoup souciés d'avoir communication des rapports de gendarmerie de 54. Personnellement, j'aurais bien aimé le faire, mais ça m'a été difficile pour des raisons personnelles. Il semble que les rapports de gendarmerie soient disséminés en divers endroits. On m'a même assuré, mais je vous dis ça sous toute réserve, que les rapports de gendarmerie de 54 avaient été détruits à une date assez récente, dans les Landes, si je me souviens bien. Bon, ça supposerait qu'ils aient été tous rassemblés. J'ignore si c'est le cas. En tout cas, voilà une formidable piste à suivre. Les gens qui sont actuellement actifs dans ce domaine-là pourraient effectivement s'en soucier. Je renonce pas entièrement à le faire, mais ça va mettre, ça risque de me poser tellement de problèmes que le résultat est pas évident. Il serait intéressant de se renseigner sur la localisation des archives, sur leur dissémination, puisqu'il semble qu'il y en a une partie en région parisienne, à Vincennes notamment, une autre partie au Blanc, et puis sans doute d'autres ailleurs. Je n'ai jamais eu d'assurance sur le fait qu'elles aient été triées par thème. Autrement dit, un rapport de gendarmerie sur un incident qui s'est produit dans le nord de la France n'est peut-être pas au même endroit qu'un rapport sur un événement qui s'est produit dans les Pyrénées. Donc il y aurait toute une recherche à faire. Il serait bon que les ufologues actuellement actifs s'en occupent.
Messieurs et mesdames les ufologues, la balle est dans votre camp. Quant à nous, on se retrouve dans 4 semaines pour la prochaine édition des Témoins de l'Invisible, en compagnie toujours de Joël Ménard, qui poursuivra son récit des apparitions ovniesques de l'année 1954 en France, mais aussi à l'étranger.
Hey, la voix d'Elvis chante good rock tonight.
Jamais, jamais.